Je vous propose une lecture dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. » Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maréchka. Asa marcha devant lui, ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maréchka. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Amen. » Voilà, il est question dans ces quelques lignes du roi Asa. Asa a été roi de Juda, donc le schisme a déjà eu lieu. Il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et Asa est donc roi de Juda et il va régner pendant 41 ans. Et nous notons que ce règne a été marqué par la prospérité. Il a réussi, le peuple a été, disons, heureux. Il a réussi, dès les premières années, à ramener le peuple à son Dieu, à l'Éternel, à se détourner des idoles, des pratiques païennes, et il a entrepris eh bien, de pouvoir détruire les idoles, les lieux où on offrait des sacrifices aux divinités païennes. Et quand on regarde un petit peu sa vie, eh bien on constate que le caractère d'Asa était totalement différent de celui des personnalités eh bien de cette époque. Son caractère dégage eh bien un caractère divin. Il est ouvert aux choses de Dieu et son cœur étant ouvert, eh bien, voici que ça facilite l'action de l'Esprit. Ça facilite l'action, eh bien, de la parole de Dieu. Il est empreint d'une notion de sainteté. Alors, il veut se débarrasser, il veut éloigner le plus loin possible de tout ce qui pourrait entacher sa vie. Et par cela, tout ce qui pourrait entacher la vie du peuple de Dieu. Et ainsi, ben, il va, comme je viens de le dire, renverser les autels qui, pour la plupart, servaient aux prostitutions sacrées. Et il va vraiment insister pour que le peuple retourne à son Dieu. Et quand on regarde eh bien, ce qui nous est rapporté concernant son règne, on va découvrir, disons, les lignes maîtresses qui peuvent conduire au succès, à la réussite, qui peuvent nous permettre d'obtenir la bénédiction. Et je pense que cela doit nous intéresser les uns et les autres, parce que nous sommes tous soucieux d'avoir la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, de voir la grâce de Dieu reposer sur chacun d'entre nous. Mais nous découvrons aussi également les indices qui peuvent conduire au déclin. parce que malheureusement, vers la fin de sa vie, Asa a perdu pied. Il n'a pas su maintenir le bon rythme. Il n'est pas resté dans la bonne direction, dans la bonne pratique, dans la bonne mentalité. Et juste à la fin de sa vie, il a dérapé dangereusement. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre le départ, bien sûr, mais c'est aussi d'arriver. Alors j'ai noté, là où je me suis garé, que le 23, je crois, ou le 24, à partir du 23, il faut plus se garer, parce qu'il y a le Tour de France qui arrive à Gap. Voilà, alors Tour de France, je ne sais plus combien ils sont, mais enfin, ils sont pas loin de 160, 170, quelque chose comme ça, et ils ont tous pris le départ. Malheureusement, pour X raisons, il y en a quelques-uns qui ont déjà abandonné. Voilà, donc on ne va plus parler d'eux, c'est terminé. Et prendre le départ, c'est une excellente chose, c'est un honneur. Mais ce qui est important quand même, c'est d'arriver. Alors quand on n'est pas loin des Champs-Élysées, bien sûr que celui qui va arriver le premier, il aura tous les honneurs, mais il paraît que on essaie aussi de manœuvrer pour arriver le dernier. Parce qu'il paraît que la place du dernier, c'est aussi, une certaine valeur. Alors il y en a, ils n'ont pas beaucoup de difficultés pour manœuvrer, pour être dernier, mais quand ils sont 3-4 à quelques secondes juste à la fin, il paraît que, ils se chamaillent un peu. Non, c'est moi qui serai le dernier. Bon, pourquoi pas. Mais ils vont franchir la ligne. Alors on ne va pas se chamailler pour arriver le dernier. Non, il est dit que nous devons mettre tout en œuvre pour être dans la tête, c'est important. Mais il faut franchir la ligne. Et Asa n'a pas véritablement franchi la ligne. Ce que je constate dans le premier verset que nous avons lu, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit ce qui est bien. Il s'est attaché à la voie du bien. Et s'attacher à la voie du bien, cela favorise le succès. Cela favorise la réussite. On peut penser par exemple à Ève, qui à un moment donné s'est attachée à la voie du mal. Et nous savons ce qui en a découlé. Tout s'est fortement dégradé. Simplement parce qu'elle a prêté l'oreille à la voix du mal. Par contre, nous avons le jeune Samuel. Il s'est attaché à la voix du bien. Il n'avait pas l'expérience d'entendre la voix de Dieu. Il était juste un petit garçon. Et il était au service du souverain sacrificateur. Et il est dit que dans cette période, la parole de l'Éternel était rare. Alors non pas que Dieu n'avait rien à dire, même si Dieu n'est pas bavard, mais Dieu parle. Et il parle avec régularité, mais il est dit que dans ce temps-là, sa parole était rare. Et elle était rare, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais tout simplement parce qu'il n'y avait personne pour entendre ce qu'il avait à dire. Et celui qui aurait dû être disponible dans de bonnes dispositions, c'était Élie, le souverain sacrificateur. Mais il était pris par autre chose. Et Dieu a voulu dire quelque chose. Et il s'est adressé au jeune Samuel. Mais quand Samuel, dans la soirée, a entendu son nom, il a cru que c'était Élie, au service duquel il était, qui l'appelait. Alors il est arrivé, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Élie lui a dit, mais je ne t'ai pas appelé. Et puis à nouveau, il a entendu son nom. Alors il est revenu. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Mais Élie a fini par comprendre. Il a dit, écoute, si tu entends à nouveau ton nom, alors tu dis, « Éternel, parle, car ton serviteur écoute. » Et voici que le jeune Samuel entend à nouveau son nom. Alors il dit, bah, Éternel, parle, je t'écoute. Et là, Dieu va lui parler pour la première fois. En plus, le message n'était pas très simple, mais enfin bon, passons. Et c'est ainsi que Samuel a découvert le son de la voix de Dieu. Il a découvert un Dieu qu'il aimait, qu'il servait, avec son cœur d'enfant, mais un Dieu qui pouvait s'adresser directement à lui. Et à partir de ce jour, eh bien, il a affermi cette relation. Et plus tard, le témoignage est rendu de Dan à Beersheba, d'une extrémité du pays jusqu'à l'autre, on a reconnu que Samuel était l'homme de Dieu. Il était le prophète de l'Éternel. Et nous savons que sous son règne, il y a eu d'excellentes choses. S'attacher à la voie du bien, cela favorise la réussite et le succès. Mais il est dit qu'il fit ce qui est droit. Et la droiture a aussi quelque chose à voir avec le succès et avec la réussite. L'adversaire de nos âmes est présenté comme étant tortueux, le diable, le vieux mot français traversier qui conduit de travers. La droiture favorise le succès. Conduire de travers, être tortueux, ne conduit pas à la réussite et au succès. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui pourrait le comprendre ? C'est la raison pour laquelle l'action de la parole et du Saint-Esprit conjugués nous permettent de vivre, eh bien, cette nouvelle naissance. Et notre cœur n'est plus un cœur tortueux, mais un cœur droit. Et nous devons veiller à le maintenir dans l'esprit de droiture, dans l'esprit d'honnêteté, dans l'esprit de vérité. La vérité, ça peut coûter dans certaines circonstances. Mais la vérité nous rendra toujours forts. Parce que Dieu est vérité. Et il sera toujours de notre côté. Le mensonge, ma foi, c'est une pirouette. On retombe sur ses pieds. Mais comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Si je veux réussir ma vie, il faut que je puisse m'attacher à la droiture. Et Paul dira, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Pas simplement dans le monde, devant vous, Corinthiens, au milieu de vous, Corinthiens, mais devant Dieu. Et ça, c'est important, parce que nous pouvons peut-être user d'habileté devant les hommes, avoir une certaine façade devant les hommes. Mais en fin de compte, celui qui nous connaît, c'est le Seigneur. Et lui, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas l'abuser. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira « Sainteté et pureté devant Dieu ». Dieu connaît nos cœurs. Et je crois qu'il est important d'être attaché à la droiture. Nous notons que Asa, dans tout ce qu'il a entrepris, déjà dans les quelques lignes que nous avons lues, était un homme qui était profondément zélé. Il avait de l'enthousiasme. Il avait du zèle. Il n'avait pas, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot. Mais je remarque que son zèle est un zèle intelligent. Et c'est important. La Bible parle de ceux qui ont un zèle amer. Elle parle même de ceux qui ont un zèle sans intelligence. Ce qui est important, c'est que nous ayons ce zèle qui est inspiré et nourri par la parole de Dieu. Non pas un zèle amer, non pas un zèle sans intelligence, déployant beaucoup d'énergie pour n'importe quoi, faisant n'importe comment. Mais cette influence de la parole de Dieu, et il est question dans la Bible du zèle que donne l'évangile de paix. Avoir ce zèle que donne l'évangile de paix, que procure l'évangile de paix. Alors on pourrait peut-être aussi trouver que, ma foi, il en fait un petit peu trop, c'est excessif, il abat les idoles, il détruit les hauts lieux, enfin, ça fait beaucoup de remue-ménage, beaucoup de brouhaha, ce sont de grandes réformes. En réalité, non. Asa se souvient du commandement du Seigneur, tu ne te feras point de représentation. Donc il agit en s'appuyant sur la parole de Dieu pour faire disparaître, pour éloigner tout ce qui pourrait détourner le regard, l'attention du peuple. Ça, c'est important. Vous vous rappelez certainement l'expérience d'Élie, le prophète. Le peuple était partagé. Alors, selon les circonstances, on allait célébrer le culte de l'Éternel. Et puis, selon d'autres circonstances, on célébrait le culte de Baal ou le culte d'Astarté. C'était les deux divinités de l'époque qui étaient, disons, célèbres. Elles étaient dans le top 50. Et le peuple vivait une période très compliquée. Et à un moment donné, Élie s'adresse à ce peuple et il dit, voilà, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous avez déjà vu comment se déplace un canard? Pas très sympathique, hein? Voilà, hein? On parle même de la danse des canards, hein? Donc ils étaient comme ça. Tantôt l'Éternel, tantôt Baal, tantôt Astarté. Et Élie va leur dire, alors maintenant il faut arrêter. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors vous vous tournez totalement vers l'Éternel et les autres vous laissez tomber. Par contre, si c'est Baal qui est Dieu, ben vous laissez tomber l'Éternel. Et vous allez vous diriger totalement, vous consacrer entièrement vers Baal. Et il leur propose, eh bien, un signe. Et il dit, voilà, on va faire une offrande. Vous, prophètes de Baal et d'Astarté, vous allez dresser un autel et vous allez faire votre offrande. Et vous allez, eh bien, demander à ce que le feu du ciel tombe et consume votre offrande. Est-ce que vous êtes d'accord? Et bien sûr que les prophètes de Baal en particulier ont dit oui. Puisque Baal, c'est le dieu de la foudre. Alors le feu qui tombe du ciel, ça ne peut pas tomber mieux. Et Élie a dit, eh bien, moi, je offrirai aussi mon offrande, je dresserai l'autel, et on verra quel est le dieu qui répond. Et les prophètes de Baal ont fait leur offrande, ils ont construit leur autel. Pendant toute la journée, ils ont invoqué Baal. Et Baal, eh ben, ne leur a pas répondu. Le feu n'est pas tombé. Bon, Élie s'est même un peu moqué d'eux, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas mon propos ce matin. Et puis, à la fin de la journée, ben, ça a été le tour d'Élie. Donc, il a fait l'autel. Plus précisément, il a mis 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Pour montrer cette unité, cette communion. Et il a creusé un fossé autour de l'autel, il a mis le bois et il a mis le taureau. Et il ne l'a pas mis dans sa totalité, il l'a mis par portion. Ça aussi, ça peut mériter réflexion. Et puis, il a aspergé tout ça abondamment avec de l'eau, pour qu'on ne vienne pas l'accuser d'avoir craqué une allumette là dans un coin. Donc, c'était... Voilà. Et puis, il a il a invoqué son Dieu. Là, je fais juste une petite parenthèse. Retrouvez le texte. Prenez votre chrono. Lisez calmement la prière d'Élie. Regardez combien de secondes ça dure. Alors, de mémoire, je ne sais plus. Je crois que c'est 14 ou 15 secondes. C'est très court, mais quelle efficacité. Parce que le feu est tombé. L'eau a été, disons, évaporée. Le taureau a été consumé. Le bois a été consumé, les pierres ont été consumées, tout a disparu, et là, il n'y avait aucune contestation possible. Et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et là, eh bien, on a renoué le contact et la communion avec le Seigneur. À un moment donné, il faut se débarrasser de ce qui nous entrave, de ce qui nous détourne du Seigneur, de sa parole. Alors bien sûr, quand on s'engage dans les premiers mois, les premières années, je veux dire, en général, il n'y a pas trop de problèmes avec ça. C'est parfois avec le temps. Vous savez, quand Dieu a dit à Jacob, reviens à Bethel, là où il avait mis son petit monument, là où Dieu lui était apparu, cette échelle qui touchait au ciel, qui reposait au sol, les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et Jacob avait pris la pierre sur laquelle il dormait, il l'avait mis là comme un symbole en disant « L'Éternel était ici, je ne le savais pas ». Il a appelé ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et puis il a fait son chemin. Le temps a passé. Et à un moment donné, Dieu lui dit, reviens à Bethel. Et Jacob, il dit, d'accord. Mais tu vas faire les selles de tes chameaux. Ah bon, et pourquoi? Vas-y, fais les selles de tes chameaux. Et quand Jacob commence à regarder dans les selles de ses chameaux, il découvre qu'au fur et à mesure de ses déplacements, il a pris un jour ceci, un jour cela, un jour autre chose. Et il s'est retrouvé avec un tas de petits gris-gris, et la Bible dit qu'il y en avait un monceau, un gros tas, qu'il a enfoui eh bien, dans un gros trou au pied d'un térébinthe. Il a fallu qu'il purifie sa maison, en quelque sorte, sa famille. Et c'est vrai qu'avec le temps, on peut s'habituer, s'accoutumer. Et on va dire parfois au pasteur, non mais pasteur, vous n'allez pas me faire une remarque pour ça, c'est rien du tout, c'est un détail. Oui, mais un détail plus un détail, ça fait deux détails. Et plus un autre, ça en fait trois. Puis à un moment donné, on a un boulet. Et on a de la peine à se déplacer. Et quand il a eu purifié sa maison, il est arrivé à Bethel, la maison de Dieu. Et il a appelé ce lieu El Bethel, ce qui veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes venus ce matin dans la maison de Dieu. Non pas que ces quatre murs soient la maison de Dieu. En fin de compte, c'est nous, pierre vivante. Donc nous sommes là dans la maison de Dieu. C'est bien. Je suis venu au culte. Pasteur, vous n'avez rien à me reprocher, hein? J'étais au culte. Ouais. Venir dans la maison de Dieu, à la maison de Dieu, c'est bien. Mais rencontrer le Dieu qui est dans la maison, ça c'est encore mieux. Et c'est ce qui donne du relief à notre culte. Rencontrer le Dieu qui est là. Et par nos chants, par notre prière, par le fait que nous ayons dit Amen à la prière des autres, par le fait que nous ayons partagé la scène, que nous sommes là attentifs à la parole, nous sommes dans cette communion avec le Dieu qui est dans la maison. Et ça, c'est extrêmement important. Mais pour rencontrer le Dieu qui est dans la maison, il faut purifier. Et d'ailleurs, le moment de la scène, c'est un temps où nous entrons en nous-mêmes. est où nous mettons les choses en ordre si besoin est, justement pour renouer, resserrer notre communion avec le Seigneur. Le vrai zèle, ce n'est pas non plus de la sentimentalité. Si nous sommes sentimentaux, nous pouvons peut-être perdre le succès. Il ne s'agit pas non plus d'être dur, parce que ce n'est pas une qualité divine. Mais le sentiment, jouer simplement sur les émotions, faire de l'émotion, être dans l'émotivité, ce n'est pas non plus une qualité divine. Et je prends cet exemple qui nous est rapporté dans le livre des Juges, la maison de Joseph, dans la conquête du pays, explorait Bethel qui s'appelait autrefois Luz. Et il y avait là un problème pour s'emparer de la ville. Elle était fortifiée, protégée de telle sorte que ce n'était pas évident de découvrir par quelle voie on pouvait l'envahir, s'en emparer. Et ceux qui étaient là comme observateurs, ils ont constaté qu'il y a un homme qui en descendait. Alors ils l'ont attrapé et ils lui ont dit, voilà, tu vas nous livrer le secret du passage, tu vas nous dire comment on s'y prend, et si tu le fais, on te laissera vie sauve. Tu pourras prendre les tiens et tu pourras t'en aller. Je ne sais pas s'il a dit oui tout de suite, enfin il a fini par dire oui. Et ils lui ont laissé la vie sauve. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme ? Ben, la Bible me dit que plus tard, un peu plus loin, il a rebâti une ville à laquelle il a donné le nom de Luz. Ce qui venait d'être fait était à refaire. On venait de s'emparer de cette ville, mais celui à qui on a laissé la vie, parce qu'on a fait du sentiment, eh bien, il a rebâti une ville à laquelle il a donné le même nom, c'était tout à refaire. Et je parlais tout à l'heure de reculer pour mieux sauter, et combien de fois nous n'avons pas pris la bonne décision, pour X raisons. Et au bout du compte, le temps a passé, les choses ne se sont pas arrangées, et quand il a fallu les affronter à nouveau, c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe. Je constate aussi que sa vie, son activité est dirigée avec bon sens et avec sagesse. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres, car le pays est encore devant nous. En fin de compte, il ne se contente pas de parler, mais il agit. Et frères et sœurs, il y a toujours, disons, du bonheur à travailler. Je pense à cette parabole des talents. Un, il en a reçu 5, l'autre, il en a reçu 2, troisième, il en a reçu 1. Le premier, il en a gagné 5. Le second, il en a gagné 2. Et le troisième, il s'est quand même souvenu où il avait fait le trou pour l'enfouir et il l'a rendu à son maître avec des paroles désobligeantes. Mais ce n'est qu'aux deux premiers. À celui qui en a rapporté 5 et à celui qui en a rapporté 2, qu'il sera dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est à ceux qui ont travaillé. Ils n'ont pas eu les mêmes résultats, mais ils ont travaillé et ils ont droit à la même récompense. Ils ont droit, entre guillemets, aux mêmes félicitations. Et ils vont se retrouver dans le même lieu, dans la présence de Dieu. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il y a toujours de la joie à travailler pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. et les plus anciens ici, vous devez peut-être vous souvenir de certaines époques, de certains moments où ça n'a pas été facile. Mais chacun a retroussé ses manches, chacun a mis de la bonne volonté et chacun est allé de l'avant. Et je crois qu'il y a toujours de la joie, il y a toujours de la reconnaissance lorsque nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur. Par contre, dans le livre des juges, il est question de ceux qui ont délibéré. Grandes furent les délibérations. Mais il est aussi question de ceux qui ont pris des résolutions. Grandes furent les résolutions. Alors bien sûr que pour toute chose, il faut prendre le temps de délibérer, de réfléchir. Il est dit que celui qui veut construire une tour, il s'assoit, il réfléchit d'abord. Mais à un moment donné, on s'arrête de réfléchir. On se met à l'œuvre. On se met au travail. Et avec cette époque, au temps de Déborah, on réfléchissait, on délibérait, peut-être qu'ils délibèrent encore d'ailleurs. Mais à un moment donné, il y en a qui se sont mis à l'ouvrage. Et ce sont ceux-là, eh bien, qui ont remporté la victoire. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi, eh bien, être à l'œuvre. Il a su discerner le temps favorable, justement, pour conduire eh bien, ces grands travaux. Parce qu'il est dit que le pays fut en repos pendant ces années-là. Il n'y a pas eu de guerre. C'était un temps d'accalmie. Alors il a profité de mettre tout en œuvre pour protéger le pays, construire des villes, des murailles, des portes, des barreaux portes, etc. Il a su discerner le temps favorable pour préparer l'avenir. Il aurait pu dire, puisque c'est en repos, j'envoie tout le monde en vacances. Tout le monde part en détente. Non, c'est un temps de repos, mais ça risque de ne pas durer. Alors, faisons le nécessaire pour se protéger au cas où. Et frères et sœurs, la Bible nous dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Dans certains endroits du monde, c'est assez compliqué pour pouvoir travailler. Et la nuit s'épaissit de plus en plus. La moralité se dégrade de plus en plus. La spiritualité, eh bien, part dans tous les sens. Et il y a là des abus majeurs. Alors, je ne sais pas si beaucoup le reçoivent, mais peut-être les bibliothécaires, si elles commandent par Internet à certaines librairies, leur commandent par ricochet, peut-être reçoivent-elles ce genre de pub. Mais ça fait quoi ? Une année, peut-être une paire d'années maximum, mais ça revient assez régulièrement et sur cette période de l'été où, soi-disant, c'est plus favorable pour lire quelques ouvrages, eh bien, il y a 2-3 librairies qui recommandent des dizaines de livres, disons, entre guillemets, chrétiens. Mais l'esprit de ces livres est toujours dans la même ligne. Et je juge que ce sont des livres dangereux. Il y a une apparence de spiritualité, mais derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et hier encore, je recevais d'une de ces librairies la pub pour quelques ouvrages, et les titres tournent toujours eh bien, dans la même pensée, « Libère le potentiel qui est en toi », etc., etc. Je veux dire, on va où, là ? Alors, bien sûr que ça, c'est attirant. Hein ? Comment réussir dans toutes ces entreprises ? Comment ceci ? Comment cela ? Voilà, il y a des formules, 2 et 2, ça fait 4. Mais ce n'est pas quand même le message de l'Évangile. c'est vouloir tout avoir, tout obtenir, mais sans en payer le prix. Sans en payer le prix. Pas la peine d'être consacré, pas la peine d'être dans la vérité, pas la peine d'être dans la lumière. Tu fais ça plus ça, et bien ça égale ça. Mais si c'était aussi simple que ça, il y a longtemps qu'on l'aurait compris. Et aujourd'hui, on a quelques écrivains, quelques faux prophètes, quelques faux apôtres, ici ou là, qui vous prédisent je ne sais quoi, mais ça c'est un évangile New Age. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. C'est tout autre chose et c'est très séduisant. Et j'ai besoin, eh bien, de veiller. Et ça fait partie de la nuit qui s'épaissit, ça. Où à un moment donné, on est dans le trouble, on est dans la pénombre et on commence à tâtonner. Et nous savons que les jours risquent de devenir de plus en plus compliqués. Alors n'attendons pas qu'il ne soit plus possible de travailler, mais alors que nous le pouvons encore, avec une certaine liberté, eh bien, faisons le maximum de ce que nous pouvons faire. Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, ayant cette intelligence, pour savoir ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans notre génération. Il entraîne le peuple dans l'activité. Le pays est encore devant nous. On a beaucoup fait, mais on n'a pas tout fait. On a beaucoup gagné, mais on n'a pas tout gagné. Et je crois qu'il est important de réaliser qu'il y a encore à faire. Il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore la possibilité de faire des nations des disciples. Je disais dans une autre ville, ce qui m'impressionne assez souvent d'ailleurs en voyageant, c'est de voir dans les campagnes, dans les villages, et vous ici en particulier dans les montagnes, c'est que dans les hameaux là, il y avait une église. S'ils ont construit une église à l'époque, c'est qu'il y a des gens qui y allaient. Alors bon, d'accord, il y avait peut-être un petit peu plus d'habitants dans ces villages qu'aujourd'hui. Mais quand même, on ne rassemblait pas tous les villages du coin à... Il y a une cathédrale à Gap ? Oui, à la cathédrale de Gap. Non, il y avait la cathédrale, ok, mais il y avait, voilà. Et dans ces églises, eh bien, il y avait un prêtre. Et il célébrait la messe, etc., etc. Aujourd'hui, ben, elles sont fermées, ou elles sont ouvertes une fois par mois, ou par trimestre, ou tous les 6 mois. Mais quand même, à l'époque, c'était tapissé. Et moi, je me dis, ok, il y a encore du travail, parce que dans tous les villages, il n'y a pas une assemblée de Dieu. Donc, il y a du boulot à faire. Et même si je prends une grande ville, je vais prendre Marseille, où il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 assemblées de Dieu, et bien sûr, quelques dizaines autres églises évangéliques qui prêchent l'évangile honnêtement, sincèrement et dans la droiture. Mais quand je regarde la population, il y a encore de la place, non ? Au moins une église par arrondissement. Donc, on ne juge pas, mais on se dit, le pays est encore devant nous. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. C'est toujours pas facile, mais pourtant c'est notre mission. C'est notre feuille de route. C'est la feuille de route que le Seigneur nous a confiée. Aller jusqu'aux extrémités de la terre et faire des nations des disciples. Le pays est encore devant nous, et ce n'est pas le moment de nous laisser détourner. Quand Néhémie a voulu reconstruire les murailles de Jérusalem, ben, les peuplades environnantes ont vu ça d'un mauvais œil. Donc, ils ont tenté de mettre un terme à cette entreprise. Et à un moment donné, ils lui ont donné rendez-vous dans la vallée d'Ono, en lui disant « Viens, on va discuter ensemble, tu vas voir, on va trouver un terrain d'entente. » Et que va répondre Néhémie ? « Non, j'ai un grand ouvrage à exécuter. » Et à un moment donné, il y a des rendez-vous, ce n'est pas nécessaire de les avoir. Il y a des débats, ce n'est pas important. Il ne faut pas se laisser détourner de la mission qui est la nôtre. Il est prudent. Il construit des villes, mais il fait des murailles autour des villes. Et c'est vrai qu'à l'époque, une ville sans murailles, c'était une ville qui n'était pas respectée, ouverte aux quatre vents. Il fallait des murailles. Alors il fait des murailles, il fait des tours, ce qui permet eh bien, de mettre des guetteurs. Il met des portes. Bon, ça c'est un peu logique. Mais il met des barres derrière les portes. Parce qu'il sait que peut-être ceux qui un jour viendront lui faire la guerre, eh bien, viendront avec des béliers pour enfoncer les portes. Alors il consolide. Il y a une prudence dans l'organisation de la défense de son pays. Et c'est vrai que dans notre engagement, il est important aussi d'être prudent. Il est dit « les insensés par leur conduite coupable s'étaient rendus malheureux, tout seuls, comme des grands, insensés, un peu foufous, irréfléchis. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait ça pour faire, ils ont fait. Mais ce n'était pas raisonnable. La Bible dit d'être prudent comme des serpents. Un de nos pères disait d'être prudent comme un kilomètre de serpent. Alors peut-être que vous avez déjà aperçu une couleuvre sur un petit muret là dans la montagne. Si vous n'êtes pas trop habitué, que vous la voyez là à 1,20 m, c'est impressionnant. Même si vous risquez rien, mais quand même. Alors un kilomètre, waouh. Oui, être prudent. Examiner. Éprouver. Attendre le fruit pour savoir à quel arbre on a affaire. Et ça, c'est extrêmement important. Parfois, il y a un petit peu trop de précipitation. Et sur ces indices de la réussite, il y a encore deux points. C'est qu'en fin de compte, il est courageux. Et le courage a aussi quelque chose à voir avec le succès et la réussite. Il y a le responsable des Éthiopiens qui vient lui faire la guerre et il a 1 million d'hommes et 300 chars. Et lui, Hasan, n'a que 580 000 hommes. Donc l'adversaire est le double. Mais il ne part pas en courant. Il ne fuit pas. Il ne sonne pas la retraite. Il est prêt à affronter cette réalité. Sur le papier, il ne peut pas gagner. Alors, il invoque Dieu. Les frères et sœurs, sur le papier, la plupart du temps, c'est impossible, humainement parlant, que nous puissions gagner. Celui qui est en face de nous et qui a mis en œuvre certaines stratégies, il est plus rusé, il est plus fort, il est plus calculateur. Humainement parlant, je ne peux pas faire face. Mais ce n'est pas pour autant que je fuis. Je bats la retraite. Non, je vais affronter la réalité telle qu'elle est, mais en m'appuyant sur le Seigneur. Et je suis admiratif de la prière qu'il va faire. Et il va dire, Éternel, toi seul peux venir en aide au peuple comme au fort, viens à notre aide. Autrement dit, je ne sais pas si je suis faible, je ne sais pas si je suis fort, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Et là, nous ne sommes pas dans une sorte de comparaison. Non, 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 mais toi, tu es faible, mais moi, je suis fort. Non, non, non. On n'est pas là pour essayer de se comparer les uns aux autres. Pour essayer de repérer un petit peu tout notre passé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, et ça c'est le plus important, c'est que tu peux me venir en aide. Que je sois faible, que je sois fort, de toute manière, j'ai besoin de toi. Et je sais que si je t'invoque, eh bien tu es celui qui viendra à mon aide. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. Et pourtant, Dieu va lui dire, Jérémie, tu auras un avenir. Invoque-moi et je te répondrai. Ta part, c'est de m'invoquer et ma part à moi, c'est de te répondre. Et Dieu veut nous dire que nous avons un avenir. Un avenir ici-bas et un avenir éternel. Et il veut me dire simplement, invoque-moi. Et je te répondrai. Alors, invoque-moi, ça paraît tellement simple. Encore faut-il le faire. Et nous verrons à la conclusion ce qui s'est passé pour le roi Asa. Oui, je crois qu'il est important d'affronter la réalité en ayant nos yeux fixés sur le Seigneur. Quand il a été dit à Josué et à Caleb qu'ils allaient prendre possession du pays, il était question des géants, mais il sera dit, ne les craignez pas. Ceux qui décriaient le pays disaient, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Dieu dit, ne les craignez pas. Pourquoi ? Ils sont là, ils sont géants, c'est une vérité. Ils sont plus grands que vous. Ils sont plus forts que vous. Mais il ne faut pas regarder qu'à eux. Il faut regarder à côté d'eux, derrière eux. Parce que moi, l'Éternel, je m'y trouve. Et moi, je suis plus grand qu'eux. Et moi, je suis plus fort qu'eux. Et moi, je suis plus efficace qu'eux. Alors ne vous laissez pas simplement couvrir de leur ombre, mais laissez-vous couvrir de ma main et vous serez vainqueur. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Élisée. Il était dans la ville de Dothan. Le matin de bonne heure, son serviteur Gehazi se réveille pour préparer le petit déjeuner à son maître. Et d'un coup, il voit sur les hauteurs de la ville les Syriens qui sont rassemblés. « Waouh, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et il va voir son maître et il lui dit, « Les ennemis sont là. Regarde, ils sont tellement nombreux, on est fichus. » Et il lui dit, « Mais t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » « Ah bon ? Et ils sont où ?» Et ils sont où ? Eh oui. Lui, il regardait avec ses yeux humains et il avait raison. Mais Élisée avait aussi un autre regard, un peu plus profond, un peu plus perçant. Il voyait l'armée syrienne, mais il voyait également l'armée de l'Éternel. Et Élisée va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et voici que Gehazi va contempler l'armée de l'Éternel. Et de temps en temps, il faut aller un petit peu au-delà. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre. Bien sûr qu'il y a des géants, mais Dieu est plus grand que le géant, et il est mon Dieu. Et c'est sur lui que je compte, et c'est sur lui que je m'appuie. Et puis, je note au verset 8, du chapitre 15, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia. Il entend, il reçoit le conseil de la parole. Il est attentif au message de l'homme de Dieu. C'est important d'accepter le message de l'Évangile, le message de la parole. De respecter la parole, de pouvoir s'appuyer sur la parole. Il est attentif. Et tout ça l'a conduit dans la réussite. En deux minutes, les indices du déclin. Le combat, il est réel, il est pied à pied. Tous les hauts lieux n'ont pas disparu. Vous savez, les idoles, les hauts lieux, c'est un peu comme les pissenlits. On croit s'en être débarrassé, ça repousse toujours. Toujours été impressionné dans certains endroits, ils refont les trottoirs, ils goudronnent, goudron bien chaud là. Et trois mois après, vous avez un pissenlit qui sort à travers. Pas comment ils font, mais c'est comme ça. Donc le combat, il est réel, il est pied à pied. Et il nous faut, eh bien, une certaine fidélité. Il va s'allier avec une force humaine. Cette fois-ci, il n'écoute plus l'homme de Dieu. Il va s'associer avec Ben-Hadad, qui est roi de Syrie, contre Baécha, qui est roi d'Israël. Et il va lui dire, romps ton alliance avec le roi de Syrie, avec le roi d'Israël, pardon, et puis allie-toi avec moi. Là, il n'invoque plus le Seigneur en disant, je ne sais pas si je suis fort, si je suis faible, mais je compte sur toi. Non, il fait de la diplomatie. L'œuvre de Dieu ne souffre pas d'être diplomate. On n'est pas là pour trouver des arrangements. On est là pour s'appuyer sur l'Écriture. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que pour faire rompre l'alliance de Ben-Hadad avec Baécha, et pour se l'allier, il va payer un pot de vin. C'est dit au chapitre 16 du deuxième livre des Chroniques. Et il va prendre l'argent dans la maison de l'Éternel. Ce qui était consacré à Dieu, les offrandes qui étaient apportées par le peuple, consacrées à Dieu, mises dans un certain lieu, il va en dérober une partie pour payer son pot de vin. C'est à pas croire. Et pourtant. Et en fin de compte, j'ai besoin de veiller parce que le culte raisonnable, c'est d'offrir son corps. C'est ce qui est dit, comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mon corps, temple du Saint-Esprit, le Saint des Saints, là où Dieu se révèle, au fond de moi-même. C'est important que ce qui doit être consacré à Dieu ne soit pas abusivement utilisé pour des choses qui iraient à l'encontre de la moralité, à l'encontre des choses de Dieu. Ne pas détourner ce qui doit être consacré. Et puis, un petit peu plus loin, il sera dit au chapitre 16, il va s'irriter contre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu vient le reprendre en lui disant, tu n'as pas bien agi, paf, il le fait mettre en prison. Vous vous rendez compte? Tout à l'heure, il s'appuie sur les paroles de l'homme de Dieu et il réussit. Mais là, comme ça va à l'encontre de sa mentalité, eh bien, il se débarrasse de l'homme de Dieu. Je peux me débarrasser de l'homme de Dieu. Je peux mettre ma Bible dans un placard et fermer à double T et jeter la clé dans le barrage de Serre-Ponçon. Ce n'est pas pour autant que la parole de Dieu ne va pas m'atteindre. L'apôtre le dira. Je suis lié, je suis emprisonné, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle est libre. Et d'une manière ou d'une autre, par diverses circonstances, elle peut m'atteindre. C'est trop facile de couper les ponts, de se débarrasser, de tourner le dos. La parole de Dieu, elle viendra quand même m'atteindre. Et c'est là que je termine. Il est tombé malade. Et même dans sa maladie, il n'a pas invoqué le Seigneur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, invoque-moi, je te répondrai. C'est simple, encore faut-il le faire. Il est tombé malade et il a refusé d'invoquer Dieu. Il a refusé que l'on prie pour lui. Il a refusé le secours de Dieu. Et sa maladie l'a emporté. Et il est mort comme un misérable. Alors que pendant quasiment 40 ans, ça a été formidable. Dans la dernière année ou les deux, trois dernières années, eh bien les choses se sont liquéfiées. Et il a péri misérablement. Que Dieu nous garde fidèles jusqu'au bout. Ce n'est pas celui qui se revêt de l'armure qui se glorifie. C'est celui qui la dépose. Bien sûr, je peux revêtir l'armure et partir au combat. Ce qui est important, c'est que je ne revienne pas entre quatre planches. C'est celui qui, à la fin, eh bien, peut la déposer et il est encore là. Donc il faut qu'au dernier jour, eh bien, je puisse entendre « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Amen.